Alors Solène Adeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu aujourd'hui intervenir sur les ateliers du BTP et vous proposez, disons, ce que vous appelez nouvellement, non pas une utopie, mais une nécessité refondatrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'écologie peut être porteuse d'emploi et de travail dans le secteur du BTP?
Absolument, je pense que l'écologie, de toute façon, c'est un virage qu'il faut que tous les secteurs économiques prennent, indubitablement, s'ils veulent continuer à exister, se développer. Et l'avantage que nous avons par rapport aux caractéristiques de notre pays, on a un pays, bon, avec les caractéristiques d'un côté de pays en développement, mais avec des caractéristiques de pays développés, avec des normes émanant de pays développés, bon, ça peut être une contrainte, mais nous devons faire de cette faiblesse notre force en nous adaptant par l'innovation et en faisant en sorte qu'on soit justement quelque part dans la zone Caraïbe, leader sur tout ce qui est innovation avec des possibilités de transfert de technologie. Je crois que c'est un vrai défi économique à relever, en plus que bon, on ne peut pas aujourd'hui, compte tenu des nombreuses alertes lancées notamment par le GIEC, on ne peut pas ne pas tenir compte, si vous voulez, des impératifs, je veux dire, en termes de ménagement des écosystèmes, de ménagement notamment de la planète. Et je crois que c'est ce virage-là qu'il faut absolument prendre pour permettre un véritable développement du secteur du BTP.
Vous avez précisé aujourd'hui, et j'ai retenu ces mots que vous avez prononcés, qui sont ceux que l'écologie n'est pas un frein au développement. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser, s'il vous plaît, cet aspect des choses?
Je ne vais pas me contenter de dire que l'écologie n'est pas un frein, mais l'écologie est un moteur de développement du secteur du BTP. Sur la question, par exemple, de l'eau et de l'assainissement, on voit bien, pour mettre tous nos réseaux aux normes, il faut des milliards. Il y a au moins 700 millions à envisager dans les années qui viennent. Et là, il faut, la question qui est posée, c'est de savoir qui paye. Et là, il faut, je crois, se retourner effectivement un peu vers l'État. Bon, les collectivités, certes, elles doivent améliorer, rationaliser, notamment s'agissant de leur organisation, s'agissant aussi de l'efficacité de leurs procédures, s'agissant aussi de leur fonctionnement, peut-être réduire sur le train de vie. Mais en même temps, il faut aussi interpeller l'État pour trouver les financements, parce qu'il y a besoin de ça. Quand on fait le lien entre assainissement eau et risque sismique, il y a la question aussi des réserves d'eau, il y a la question aussi des stations d'épuration qui ne sont pas encore aux normes. Donc, il y a là de quoi, enfin, je veux dire, matière à les mettre aux normes. Et tout ça peut créer de l'activité et des emplois. À côté de ça, il y a aussi tout ce qu'on doit faire. Il y a eu 2,5 milliards d'euros déjà engagés dans le cadre du plan Seismantille pour la mise aux normes des bâtiments publics notamment et des hôpitaux et du parc HLM. Il y a encore 6 milliards de travaux qu'il faudrait faire, sans compter le parc privé. Donc je crois qu'il y a de quoi l'écologie là, la norme environnementale, est vraiment un moteur, pas un frein, mais un moteur de développement, notamment pour certains secteurs du BTP. Et puis au-delà de ce moteur quantitatif, l'écologie peut être aussi un moteur qualitatif dans notre capacité d'innover sur la notion d'éco-quartier, d'éco-construction, de nouveaux matériaux. Il faut, pourquoi pas, envisager aussi des clusters, des espaces où les entreprises rencontreraient des chercheurs, des universitaires, des techniciens, des élus, pour justement développer la recherche de manière à permettre l'innovation et de manière à permettre à notre secteur du BTP d'être dynamique, innovant et conquérant.
Oui, mais comment on peut comprendre ça lorsqu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'écologistes à la Martinique empêchent au monde de tourner? C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on voit les différentes actions qui sont menées, même si il y a des questions de fond, mais de manière générale, on sait que par exemple, les écologistes, ils ont voulu empêcher de construire Génipa. Génipa aujourd'hui, c'est devenu un espace, disons, de rapprochement des populations par rapport à leurs besoins. Bon, alors est-ce que vous aujourd'hui, vous n'êtes pas de ceux qui disent, ou est-ce que vous ne devriez pas notamment réfléchir sur la question, disons, d'adapter des constructions écologiques?
Non, je pense que, alors, il y a la question des constructions, mais la question aussi des, vous savez, même les assureurs aujourd'hui nous expliquent que par rapport au réchauffement climatique, un certain nombre de risques, notamment cycloniques, ce qu'ils appellent les infrastructures naturelles sont essentielles, c'est-à-dire protéger une mangrove et tout ça. Donc ce qu'il faut dans un développement, mais c'est une société est un corps vivant est forcément en tension. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts et des visions différentes. Mais il faut justement que dans l'espace démocratique, que ces visions et ces intérêts trouvent aussi des modes de régulation. Et c'est pour ça que, bon, je n'ai pas eu l'occasion de le proposer, moi je suis un écologiste convaincu, il faut défendre les infrastructures naturelles, il faut défendre les écosystèmes, mais il y a place pour le développement, surtout s'il sait prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le virage de l'écologie. Maintenant, à l'instar de l'ARACT, je crois effectivement qu'il faut peut-être trouver des espaces de dialogue et de discussion, et bien de confrontation aussi des visions, parce qu'on le voit bien, les procédures classico-classiques, des procédures juridiques, juridiques des différents codes français ne suffisent pas, à l'instar de l'ARAC, je le propose, il faut peut-être une instance similaire du point de vue de l'environnement pour que les porteurs de projets, pour que les acteurs du développement arrivent à rencontrer ceux qui défendent l'environnement pour trouver les nécessaires compromis sans compromission.
D'accord, très bien. Marcelina, on ne pourrait pas terminer cette interview sans vous demander de nous donner les nouvelles du prêcheur avec les problèmes de l'art en ce moment.
Alors bon, là on a un petit répit parce qu'il n'y a pas de pluie, mais s'il revient la pluie, bon, on reviendra les lards très très certainement. Mais là, on met...
Vous pensez qu'on est parti pour combien d'années là?
Moi je pense qu'on ne peut pas être parti pour longtemps, d'où là, c'est pour ça qu'on met l'accent. Alors, il y a M. le préfet qui a annoncé qu'il va faire venir une mission de scientifiques de haut niveau, c'est très bien. Il faut donner aussi à l'observatoire, au BRGM, les moyens de travailler en équipement, en appareillage. Il faut aussi impliquer l'Université des Antilles pour renforcer, je veux dire, la recherche de données, de connaissances. Mais former aussi, c'est important, la convention, le partenariat avec l'Université des Antilles. Former aussi des jeunes martiniquais à ce type de métier, cette compréhension, pour aussi que les solutions viennent aussi, en quelque part, des martiniquais eux-mêmes. Donc il y a tout ça à mettre en place, bon, améliorer le système d'alerte, envisager des travaux de confortement des berges. Il faudra saisir ce temps de répit avant la période d'hivernage pour faire le maximum. Bien sûr, il y a la contrainte financière, mais nous devrions dans l'intervalle faire le maximum de tout ce qui pourrait être fait.
Ça coûtera pas moins cher de déplacer le prêcheur?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que le déplacement du prêcheur, on l'envisage. Mais il ne faut pas avoir qu'un seul risque. Parce que, vous savez, hier, c'était le volcan. Tout le monde était pas volcan, il était allé Bolamé. Après, ça a été Bolamé, tout le monde les montants, les mônes. Après, c'est les lards, tout le monde. Non. Il faut justement essayer de faire l'inventaire de tous les risques, et ils sont nombreux, auxquels nous sommes exposés, et apporter des solutions qui nous mettent, une fois pour toutes, hors de portée de tous les risques possibles. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça une démarche intelligente, c'est ça une démarche transversale, c'est ça une démarche globale qui implique bien évidemment la population. Et je crois qu'au-delà du tracas, des inconvénients, des préoccupations que génère cette situation, je sens qu'il y a une volonté de fédérer les énergies, le lien social se renforce, les gens qui ne se parlaient pas recommencent à se parler. Donc on est en train de conforter le lien social, et cette dynamique sociale peut nous permettre justement de faire face aux dangers et de construire à partir du risque justement peut-être un modèle de société idéal.
Très bien, merci Marcelin Nadeau.
Merci, c'est moi. Merci.